À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Philippe Descola. Je suis anthropologue, c'est-à-dire que j'ai fait de ma curiosité pour le monde un métier. Je suis devenu un badaud professionnel, si je puis dire.
Premier épisode, le goût des autres. Bonsoir Philippe Descola.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue. Sans doute ai-je lu l'anthropologue français le plus connu et le plus commenté dans le monde depuis Claude Lévi-Strauss. Vous avez d'ailleurs, à la suite de Claude Lévi-Strauss et de Françoise Héritier, dirigé le laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France de 2001 à 2013, tout en étant titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature de 2000 à 2019, dans ce même Collège de France, et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes lauréat d'une médaille d'or du CNRS en 2012 pour l'ensemble de votre œuvre. Ce que vous avez développé, Philippe Descola, c'est une anthropologie comparative des rapports entre humains et non-humains. Et cette anthropologie comparative a révolutionné à la fois le paysage des sciences humaines, la réflexion sur les enjeux écologiques de notre temps et notre façon de concevoir la place même de l'humain dans le monde. Ce fut notamment avec un livre publié en 2005, Par-delà nature et culture, dont nous parlerons après-demain, dans la troisième émission de cette série. Un livre qui connaît quelques 15, 16 ans plus tard, 16, 17 ans même plus tard, nous sommes en 2023, un regain d'intérêt. Vous y affirmiez que la nature n'existe pas, drôle de chose, et que l'opposition entre nature et culture, sur laquelle notre monde occidental moderne est fondé, n'est pas pertinente, en tout cas pas universelle. Et en reniant ce dualisme fondamental de nos sociétés, vous avez ouvert de nouvelles perspectives politiques et sûrement également de nouveaux champs de recherche pour des jeunes avides d'en découvrir. J'aimerais ce soir qu'on commence avec vous par remonter aux sources de votre vocation d'anthropologue, c'est-à-dire les conditions qui vous ont amené à faire de l'anthropologie. C'est ce que vous avez raconté dans un livre d'entretien avec Pierre Charbonnier, La composition des mondes. Et au début de ce livre, Philippe Descola, vous dites que vous vous sentez inadapté à ce monde dans lequel vous êtes né. C'est un drôle de commencement. Vous vous sentez à l'écart du monde ?
Pour en avoir parlé avec d'autres anthropologues, ou pour l'avoir lu, j'ai le sentiment que c'est quelque chose d'assez commun parmi les anthropologues, et que la source de la vocation, c'est un écart par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, et qui vous fait regarder avec une certaine distance vos concitoyens, votre milieu familial, votre milieu social, le pays dans lequel vous résidez, ses valeurs, sa culture, etc. Et qui est quelquefois fondé sur une mise à distance, c'est-à-dire que Lévi-Strauss dit quelque part que la première fois qu'on l'a traité de sale juif à l'école, il s'est senti dans une situation un peu paradoxale, puisqu'il pensait appartenir à la communauté nationale, et en même temps, vu de l'extérieur, on lui récusait cette appartenance, et donc ça le mettait dans une situation d'entre-deux. C'est pas mon cas, j'ai été élevé dans une famille de la bourgeoisie catholique classique, mon père était historien, et donc je me suis jamais trouvé exclu par qui que ce soit dans mon entourage scolaire en particulier, mais j'avais toujours le sentiment de voir ce qui se déroulait autour de moi avec une certaine distance. Peut-être que c'est un don, je pense que c'est un don que les romanciers exploitent d'une certaine façon en transformant grâce à leur imaginaire des situations qu'ils ont pu observer. Les exemples abondent parmi les romanciers du XXe siècle. Les anthropologues sont moins ont moins de chance, puisque au fond ils sont un grand anthropologue anglais, Edmund Leach, disait que les anthropologues sont tous des romanciers ratés. Et d'une certaine façon, peut-être que nous compensons notre incapacité de déployer des vies alternatives dans l'imaginaire par l'observation des vies d'autrui que nous conseillons et que nous essayons de comprendre.
En allant voir ailleurs si l'herbe,
en allant voir si l'herbe,
est plus verte.
Si l'herbe est plus verte ou si les gens sont plus intéressants, sont plus, vous incitent à vous poser des questions sur vous-même et sur votre monde, etc. Et pour ça, au fond, moi j'ai commencé par des voyages. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais adolescent. Je pense que les anthropologues sont simplement des voyageurs qui se fixent. C'est-à-dire, c'est des gens qui aiment observer la diversité des usages du monde et qui, à un certain moment, au lieu d'être constamment ébranlé, en quelque sorte, par des nouveautés, décident de se fixer en un endroit particulier pour essayer de comprendre un système d'usage du monde en particulier qui leur paraît particulièrement digne d'estime.
Mais vous avez commencé les voyages, dites-vous, quand vous étiez adolescent, vers 16-17 ans. Avant cela, est-ce que vous sauriez dire ce qui vous a donné à la fois ce regard éloigné, comme disait Claude Lévi-Strauss, hein, sur le monde, et peut-être ce goût du voyage? Est-ce que il y a eu des livres, parce que vous avez grandi dans les livres, vous parlez des romanciers, vous avez grandi dans les livres, est-ce qu'il y a des livres qui vous emmenaient ailleurs, des histoires que vous racontez vos parents, qui vous emmenaient ailleurs, des films?
Je pense que c'est en effet une disposition personnelle, et les, comme toutes ces dispositions profondément enfouies, elles sont difficiles à démêler. Je pense qu'il y a certainement eu une influence littéraire. Je me souviens en particulier d'un livre qui est un roman picaresque de Gil Blas de Santillane, de Le Sage, qui m'avait particulièrement frappé, parce que, comme toutes les histoires picaresques, ce sont des constructions en abîme, c'est-à-dire c'est des histoires qui s'insèrent dans des histoires, c'est ça, qui s'enchassent, une construction en abîme, donc, et qui se passe dans l'Espagne du siècle d'or, et donc c'était déjà voyager, non pas très loin dans l'espace, mais en tout cas dans le temps, et d'être confronté à des personnages picaresques, comme on dit traditionnellement, c'est-à-dire étonnants, bigarrés, plein de charme dans leur fantaisie, leur bizarrerie. Et c'est un roman, par exemple, que j'ai lu successivement pendant très longtemps. C'est-à-dire, dès que j'avais fini, je recommençais, tellement j'étais fasciné par ce livre. J'avais, je sais pas, une douzaine d'années, peut-être. Et j'ai lu beaucoup aussi de récits de voyage. Il y avait chez mes parents, je les ai conservés ici, des volumes d'une revue qui s'appelait Le Tour du Monde, qui était un peu le National Geographic de l'époque, une revue française, donc, et qui publiait des récits de voyage et des récits de proto-ethnographes dans toutes les régions du monde. Et c'était une revue qui était illustrée, qui était à la maison réunie en volume, et qui était illustré par des grands illustrateurs, des grands dessinateurs, des graveurs de l'époque, qui illustraient les romans de Jules Verne, comme Rioux, par exemple. Et pour moi, il n'y avait pas de différence profonde entre ce que je lisais dans Les Enfants du Capitaine Grant, ou des choses comme ça, et ces récits de voyage. Et donc j'ai été très tôt transporté dans des univers lointains. Ce qui est un peu un paradoxe pour quelqu'un qui a été élevé dans les années 50 et 60, c'est-à-dire j'avais une culture littéraire de ce point de vue-là qui renvoyait à un passé plus ancien.
Plus 19e-iste,
oui, c'est ça. Et alors peut-être cela était-il aussi lié au fait que mon père était un historien, un spécialiste de l'Espagne et de l'Amérique latine, et que donc j'ai, grâce à lui, baigné dans des univers qui étaient en partie familiers, parce que c'est le monde ibérique n'est pas tellement différent du nôtre, mais en partie différent aussi du fait de la colonisation ibérique. Mon père était un historien de la, non pas des peuples autochtones, mais de la colonisation. C'est peut-être aussi une des raisons qui m'ont poussé à me tourner plutôt vers les peuples autochtones lorsque j'ai décidé de partir sur le terrain.
Et est-ce que vous avez grandi avec des animaux entourés de plantes? Ce rapport à la nature qui est essentiel de votre travail, il vient d'où?
Alors,
cette nature qui n'existe pas, mais ça, on y viendra plus tard.
J'ai toujours vécu avec des chats depuis quelques mois, c'est la première fois de ma vie, sauf que lorsque j'étais sur le terrain, où je ne partage pas la vie d'un chat, mais c'est pas tellement cela. Le goût de la nature, il est venu de mes... D'abord, mon père et mon grand-père étaient des grands marcheurs. J'allais avec mon père dans les bois autour de Paris le dimanche, marcher. Et pendant les vacances, nous allions dans les Pyrénées centrales. Ma famille paternelle est originaire de l'Ariège. Et nous marchions en montagne. Et en particulier, mon grand-père, qui était un médecin à l'ancienne, c'est-à-dire un ophtalmologue, mais c'était aussi quelqu'un de très cultivé, c'est pas pour dire que les médecins sont incultes, mais lui, et faisait partie de cette génération de médecins qui connaissaient le grec, le latin, qui avait commencé à étudier le sanskrit par goût personnel et qui parlait plusieurs langues, enfin il refusait de les parler parce qu'il disait qu'il ne voulait pas les parler comme un portier d'hôtel, mais il les lisait très bien, plusieurs langues européennes. Il a fait ses études d'ophtalmologie en Allemagne d'ailleurs, et donc il était extrêmement cultivé et très ferré en botanique, en astronomie, et donc lorsque nous marchions dans la montagne, il me pointait des plantes, des fleurs, pour les identifier.
C'était la leçon de choses en vrai.
C'était la leçon de choses en vrai, et il connectait ces fleurs à des éléments de la mythologie grecque, par exemple. Et donc j'ai baigné dans cette liaison entre les beautés de la nature et les beautés de la culture, si on peut dire, c'est-à-dire l'imaginaire que les Grecs avaient développé tout autour des sources, des nymphes, des amadriades, etc., etc. Et donc j'ai vécu en partie dans ce monde imaginaire dans l'enfance, et ça m'a conduit à... Je m'en suis rendu compte après, d'ailleurs, lorsque j'étais privé de ce type de nature, parce que lorsque j'étais en Amazonie, la forêt, ce n'est pas un lieu que l'on contemple, à la différence d'un paysage que l'on peut contempler depuis une crête et qui vous ouvre un panorama où l'on reconnaît des choses familières, où l'on reconnaît certains éléments si on a quelques connaissances en géologie de la façon dont ce relief s'est constitué, mais aussi des endroits familiers, des villages, des maisons, des églises, le son des cloches par exemple, des choses comme ça. Et tout ça évidemment me faisait défaut sur le terrain où j'étais enfoui dans la forêt et où ce genre de paysage me manquait. C'est à cette occasion que je me suis rendu compte que ça me manquait. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, quand on est sur le terrain, on dit parfois que les anthropologues sont des relativistes et que par conséquent, rien ne les... ils ne sont attachés à rien, au fond, que tout se vaut. C'est faux, bien sûr, puisque il suffit d'avoir été privé de choses que l'on aime pour se rendre compte qu'on les aime. Et par conséquent, le séjour sur le terrain a joué ce rôle de révélateur, en quelque sorte, qui m'a permis de comprendre que pourquoi ce qui me manquait en matière de musique, en matière de littérature, en matière de peinture, notamment de paysage.
Comment se fait-il dans ces conditions, Philippe Descola, fort de ce monde imaginaire si important pour vous, amoureux de la littérature, des grands paysages, des voyages, et de la géologie même, que vous ayez choisi de faire des études de philosophie plutôt que, je ne sais pas moi, littérature, géographie, sciences et vie de la Terre, on dit aujourd'hui, on appelait ça sciences naturelles à l'époque. Pourquoi pas ces disciplines-là? Pourquoi la philosophie à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, celle qu'on appelle aujourd'hui Lyon?
Ça me paraissait une bonne formation de l'esprit, c'était une bonne manière de conduire mes pensées, d'apprendre à conduire mes pensées. Il y avait un côté ascétique dans l'étude de la philosophie, qui, en plus, pour des gens de ma génération, nous étions tous des militants politiques. C'était à l'époque de la guerre du Vietnam. Nous avions été formés dans les comités Vietnam, et c'était juste après mai 68. nous étions tous peu ou prou militants dans différentes organisations de...
Alors vous, c'était la LCR, hein, la Ligue communiste révolutionnaire,
voilà.
Trotskiste.
Et nous pensions donc que c'était notre devoir de faire la révolution, mais pour faire la révolution, il fallait être bien préparé intellectuellement. Et donc il y a une sorte de paradoxe dans ce fait que c'était un peu la forme, l'idée dominante parmi mes condisciples, hein, c'était d'être préparé intellectuellement pour penser les situations et transformer la vie. À la même époque, certains camarades avaient décidé de s'établir. Donc il y avait deux choix, c'est-à-dire d'aller s'établir en usine pour militer directement auprès des ouvriers, auprès du prolétariat. Et d'autres comme moi et beaucoup de mes condisciples avions décidé plutôt d'acquérir une formation intellectuelle de haut niveau pour faire face au fond à la situation complexe devant laquelle nous étions. Et donc il y a cet aspect-là, et l'autre aspect, en effet, c'est une formation intellectuelle. Ne sachant pas très bien encore ce que je voulais faire, je me suis dit, après tout, c'est comme si j'avais été doué pour les maths, j'aurais fait des maths, ce qui était vraiment pas mon... c'était pas un domaine dans lequel j'excellais. Et puis, tant qu'à faire, autant faire de la philosophie, parce que c'est une situation, une situation d'attente, ça permet de tromper son impatience pendant un moment, et ça, au moins, on apprend à former son esprit.
On vous surnommait l'Emplumé ?
Oui, normal, on m'appelait l'Emplumé, parce que déjà, je m'intéressais à l'anthropologie, qui était considérée comme une occupation vraiment assez futile. Les philosophes avaient beaucoup de dédain pour les sciences sociales à l'époque. Et je me souviens d'un caïman, c'est-à-dire d'un professeur qui me disait « Les sciences humaines, c'est du pipi de chat ». Peut-être que ça renforçait ma détermination. Et je lisais à ce moment-là non seulement des textes théoriques de Lévi-Strauss, par exemple, mais aussi pas mal de monographies, parce que je trouvais fascinant ces descriptions d'expériences collectives, de pensées et de vie. Et c'est ça qui m'a décidé finalement à sauter le pas. C'est que plutôt que de devenir un philosophe professionnel qui ressasse infiniment l'histoire de la genèse de la pensée philosophique et qui commente les philosophes du passé qui eux-mêmes fondent essentiellement leurs travaux sur des expériences de pensée, m'a paru plus intéressant d'aller à la rencontre du monde et d'essayer de comprendre des expériences de vie comme des expériences de pensée.
Et pourtant, dans Triste Tropique, si je ne m'abuse, il y a une phrase restée célèbre et qu'on a beaucoup reprochée à Claude Lévi-Strauss, qui est « Je hais les voyages et les explorateurs ».
Oui, mais c'est une phrase qui était écrite dans un contexte très particulier. Il faut savoir ce qu'étaient les voyages à l'époque, il faut lire des livres de voyages de l'époque... il faut voir des films, des conférences de la salle Pleyel de l'époque qui, au fond, étaient assez superficielles, fondées sur un exotisme bon marché et qui, sous prétexte d'aller à la rencontre de l'autre, était en fait une façon de confirmer des préjugés. Et c'est ça que Lévi-Strauss met en cause, ce sont ces récits de voyage, exotisants et qui n'aboutissent à comprendre véritablement l'altérité de ceux à qui on rend visite. Et ça m'a frappé lorsque j'ai commencé à faire du terrain, parce que j'ai choisi, on en parlera peut-être un peu plus tard, une population qui était très connue dans le monde du fait qu'elle réduisait les têtes. C'était les Givaros. Et je me suis donc lancé dans la lecture de ce dont on disposait à l'époque en matière de documentation sur les Givaros. Il y avait pas mal de livres d'ethnographie, mais il y avait aussi une quantité de livres de voyage. qui étaient tous plus niais les uns que les autres, qui se répétaient et qui répétaient des anecdotes éculées qu'on trouve encore d'ailleurs dans certains reportages à la télévision, le sauvage qui a jamais vu de feu, qui se brûle avec une allumette, enfin des bêtises comme ça, étaient absolument parsemés tous ces récits. Et c'est à ce moment que je me suis aperçu qu'il y avait des choses à faire, en dépit de la masse de cette littérature insignifiante, il y avait beaucoup de choses à faire pour mieux comprendre cette société.
Et puis, il y a eu en plus la rencontre avec un assistant de Claude Lévi-Strauss, qui était votre aîné de 15 ans environ, Maurice Godelier, grand anthropologue, hein, qui à l'époque faisait un séminaire d'économie politique à l'École normale supérieure. Et vous dites, Philippe Descola, que c'est aussi grâce à Maurice Godelier que vous avez finalement bifurqué vers l'anthropologie. C'est aussi lui qui vous a mis le pied à l'étrier du terrain, d'une certaine façon.
Tout à fait, oui. Maurice Godelier avait une formation philosophique comme moi, et donc c'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur l'épistémologie de l'économie. À l'époque, c'était quelque chose qui était en vogue, notamment les lectures du Capital de Marx en rapport avec les travaux d'économie politique. Donc j'ai fait beaucoup d'économie politique à un certain moment, justement comme un moyen aussi de se préparer intellectuellement à la critique de l'économie politique. Je me souviens d'avoir lu par exemple le manuel d'économie de Raymond Barre, ce qui pour un philosophe est un peu paradoxal. Et Maurice Godelier faisait un séminaire qui était très intéressant parce que c'était non seulement une critique de l'économie politique, mais aussi une analyse des formes, comme il les appelait, de production et de circulation de biens précapitalistes. Et il montrait à quel point ces formes étaient différentes de ce que le capitalisme nous avait rendu familier par la suite, parce qu'il avait cette expérience après la philosophie, après avoir été aussi assistant de Fernand Braudel, il avait été devenu assistant de Lévi-Strauss, et était parti sur le terrain chez les Barouillas en Nouvelle-Guinée, et c'est lui qui m'a dit « oui, on peut parfaitement devenir anthropologue, c'est pas uniquement une fascination intellectuelle pour certains textes, il faut faire du terrain, et ce terrain, en fait, il faut simplement partir quelque part et rester longtemps. » Et donc c'est lui qui m'a dit « oui, c'est parfaitement possible de faire cela. »
Et vous voilà parti.
Et me voilà parti.
En 73, au Mexique, donc en Amérique latine, ouais. Peut-être par tropisme familial, hein, vous disiez effectivement que votre père faisait des études d'histoire, il était un hispaniste, peut-être par tropisme familial, mais en tout cas vous êtes parti avec votre compagne déjà, Anne-Christine Taylor. Alors il y a eu une petite discussion, parce que vous aviez assez envie d'aller dans la forêt. Mais Anne-Christine, elle n'était pas très attirée par la forêt. Alors vous êtes retrouvé dans le sud du Chiapas. Racontez-nous, Philippe Descola.
Oui, alors les circonstances politiques de l'époque faisaient que, et puis un intérêt personnel m'avait conduit à aller au Mexique, parce que d'abord c'est un pays où j'étais déjà allé comme touriste, et que j'avais beaucoup apprécié, et surtout je voulais comprendre les formes d'aliénation des populations autochtones soumises à un régime encore néocolonial. Et c'est pour ça que j'étais allé au Chiapas. Mais au Chiapas, j'étais intéressé par les transformations dans les rapports à la nature, justement.
Déjà.
Et c'est pour ça que nous avons choisi de nous établir dans un petit village de la forêt, la Candone, c'est-à-dire dans les basses terres du Chiapas. C'était un village qui était peuplé de colons autochtones des hautes terres qui avaient été poussés par les grands propriétaires terriens et qui n'avaient plus de terres et qui s'étaient résignés à aller dans les basses terres, en forêt, dans un milieu qui ne leur était pas familier, pour essayer de gagner leur pitance, une maigre pitance.
Depuis combien de temps habitaient-ils dans la forêt ?
Une dizaine ou une douzaine d'années. Et ils étaient donc dans cette espèce de chaudron de la forêt, où il y avait une autre population de langue maya, qui étaient les Lacandons, qui vivaient là depuis beaucoup plus longtemps, avec lesquels ils avaient relativement peu de rapports, et puis déjà aussi des grandes propriétés de propriétaires de latifondières, fondées sur la déforestation et l'élevage du bétail. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment la transplantation depuis un milieu tempéré des hautes terres vers la forêt avait pu transformer leur façon de faire, leur façon d'être, etc.
C'est la première fois que vous voyez un ethnographe, hein, me semble-t-il.
Oui, bien sûr, oui. Des ethnographes, il y en avait beaucoup au Chiapas, mais pas dans cette région.
Voilà.
Ils étaient concentrés dans les hautes terres, qui sont, en fait, c'est un endroit où notamment les étudiants des grands départements d'anthropologie des États-Unis viennent faire du travail de terrain comme formation, si je peux dire. Donc ça, je me souviens d'avoir assisté avec Anne-Christine Taylor à Chamula, si mes souvenirs sont bons, c'est un village dans les hautes terres, à une procession rituelle des villageois, et donc tout avec les costumes traditionnels, avec les grandes cannes sculptées, etc. Et derrière, il y avait les anthropologues américains, il y en avait une dizaine avec des petits enfants qui avaient aussi ils portaient les costumes traditionnels. D'une certaine façon, c'était comme dans ces caricatures où on voit l'anthropologue qui fait partie de la famille, on doit le compter, en somme, dans les schémas de parenté, parce qu'il est là depuis longtemps. Et donc, il y avait un peu trop de monde pour ça. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes descendus.
Vous êtes allé ailleurs.
Dans les Basse-Terres, oui. Et là, dans les Basse-Terres, ces colons de Celtal étaient malheureux, là où ils étaient, parce que, au fond, ils avaient été chassés de chez eux par, encore une fois, l'expansion des grands domaines. Et ils n'avaient pas l'habitude de la forêt, qui était pour nous un monde complètement nouveau et absolument fascinant, exubérant, foisonnant, mais qui pour eux était quelque chose dans lequel ils ne trouvaient pas leur repère. Les populations mayas des hautes terres du Chiapas ont un système d'organisation spatiale, socio-cosmique, si on peut dire, extrêmement raffiné, fondé sur des oppositions de sites, avec des lignes imaginaires qui divisent le village en plusieurs quartiers, etc. Et là, le monde était anomique pour eux, d'une certaine façon. Il était déstructuré. Et il s'y sentait mal à l'aise. Et c'est cette espèce de désespoir de basse intensité qui a un peu déteint sur nous, et nous avons décidé d'aller cette fois-ci véritablement en forêt et de sauter le pas. J'avais un peu tendance à penser que l'Amazonie c'était un truc de petits bourgeois qui voulaient chercher l'aventure. Mais là, je me suis dit, au fond, foin de scrupules, allons chez des gens qui aiment bien être en forêt.
Et c'est ce qu'on verra demain, Philippe Descola, puisque quand vous rentrez, vous allez voir Claude Lévi-Strauss, il accepte de diriger votre thèse en ethnologie à l'École de pratique des hautes études, une thèse qui s'intitulera en 1983 « La nature domestique, symbolisme et praxis dans l'écologie des Atchouars ». Les Atchouars, où vous avez passé 3 ans, entre 1976 et 1978, avec votre épouse. Et c'est ce que nous verrons demain, puisque vous vous êtes laissé porter par ce terrain-là. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Michael Simon, réalisation Rafik Zénine, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.